الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين وبعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدنا علما يا كريم رب زدنا علما يا كريم رب زدنا علما يا كريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي شفاء الإسلام on avait commencé un chapitre la semaine dernière ce chapitre concerne la personne dont le cœur est attaché aux mosquées. Et ce sujet est en rapport direct avec le hadith de base hein, qu'on explique depuis quelques mois, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala annonce par le biais du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il a réservé une place sous l'ombre de son trône, le jour des comptes, le jour des hisab, pour cette catégorie de personnes. Et l'étude de ce hadith rejoint le thème qu'on a commencé il y a quelque temps, c'est l'étude des ahwal, des situations des gens, le jour du compte, le jour du hisab dans l'au-delà. On avait vu quelle sera la situation de l'homme pieux, on avait vu quelle sera la situation de l'hypocrite, du pécheur, et on s'était longuement attardé sur les péchés et leurs conséquences au jour des comptes. On avait vu que très souvent nous connaissons quelles sont les conséquences en termes dunyawi, hein, concernant ce dunya, par rapport au péché, mais ça nous a permis également de voir que le jour de Qiyamah, chaque péché qu'un être humain, qu'un musulman accomplit, il y a une conséquence particulière. Et tous les péchés ne se ressemblent pas. Les péchés ont comme point commun la désobéissance envers Allah subhanahu wa ta'ala, mais en fonction de la nature et de la catégorie des péchés, il y a des situations différentes et il y a malheureusement des châtiments différents qu'Allah nous protège. Ensuite, on avait abordé la situation des muttaqin, des gens pieux, le jour de la résurrection. On avait commencé avec la situation dès les premiers moments lors de la résurrection, avant de parler des comptes. Et comme maintenant on parle des comptes, on a abordé, avant de parler vraiment de la remise des livrets ou alors du mizan, de la balance, des personnes qui sont, on va dire, au-dessus du lot. Allahumma ja'alna minhum. Des gens qui ont été favorisés par Allah de ce dunya, mais pas par les biens de dunya. Des gens qu'Allah a favorisés dans ce monde par un cadeau inestimable qui est la foi et la lumière de la foi. La foi et la douceur de la foi. C'est-à-dire des gens qui trouvent la tranquillité du cœur, la quiétude uniquement dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors que malheureusement beaucoup parmi nous, qu'Allah nous pardonne et nous protège de ce hubbu dunya, cet attachement sans limite au dunya, hein, il y a des gens qui consacrent leur vie, qui consacrent l'essentiel de leur jeunesse, de leur temps, de leur concentration et parfois même sacrifier leur famille pour le dunya, pour ramasser, pour accumuler quelque chose qu'ils vont léguer à leurs enfants, qui vont le dilapider, qui ne connaîtront pas la valeur. Et ça, c'est la réalité du dunya et surtout la réalité des wasawis de shaytan, des insufflations de shaytan concernant les biens de ce monde. Parce qu'Allah dit Quran, "Tuhibbun al-mala hubban jamma." Ça veut dire que ça, c'est dans la fitra, dans la nature humaine. Le cœur de l'homme est attaché au bien. Personne ne peut pas dire que moi, l'argent, ça ne m'intéresse pas. Ce n'est pas possible. C'est-à-dire, dans le cœur, Allah Ta'ala a créé ce cœur avec des qualités, des défauts, avec des choses, un potentiel extraordinaire. En termes d'élévation spirituelle, ce iman, ce cœur peut atteindre le niveau des sahaba. C'est-à-dire dépasser le niveau des malaïka. Mais quand ce cœur ne prend pas le bon envol, il ne décolle pas comme il le faut, parce qu'il manque d'encadrement, il manque de science, il manque de ilm, il manque de lumière, il manque de mujahada, d'efforts, de sacrifices, ce cœur-là peut plonger jusqu'à ce que ça devienne un cœur comme les hypocrites qui seront le jour des comptes, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar, les positions les plus basses, les plus viles de l'enfer. C'est-à-dire ce cœur peut vous permettre d'atteindre le firdaus sous le trône d'Allah, tout comme descendre fi darkil asfal, tout dépend bi'idhnillah de ce qu'Allah a prédestiné pour nous en fonction de nos efforts. Ce qu'Allah a prédestiné sur nous, pour nous, en fonction de nos a'mal, en fonction de notre azima, c'est-à-dire notre intention ferme d'avancer, de faire quelque chose. Et donc, introduction après introduction, ça nous ramène vers la troisième catégorie de personnes. On avait commencé avec le imam Adil, qui concernait un peu moins hein, le public. Hein. C'est surtout les rois, les dirigeants à qui Allah a donné sultan, a donné le pouvoir. Et on avait dit que par analogie, ça concerne également le amir. Par exemple, dit que celui à qui Allah a donné le imara, ne serait-ce que 10 personnes, il doit agir avec équité et craindre Allah, en ce sens craindre Allah, dans la manière qu'il va agir avec les personnes. Donc ça, on n'avait pas beaucoup développé. développé. La deuxième catégorie de personnes qui nous intéressait beaucoup plus, c'est Shabun Nasha'a fi ta'atillah, un jeune qui a grandi de l'obéissance d'Allah Azza wa Jal. Et on avait vu que l'étendard de l'islam a été porté haut et fièrement par des shabab, par des jeunes sahaba. Tous les sahaba, à l'exception, on va dire, d'Abu Bakr al-Siddiq et Umar ibn al-Khattab, étaient des jeunes. Ali ibn Abi Talib, Moussa ibn Umair, Abdullah ibn Zubayr, etc. La plupart de ces sahaba, qui ont marqué l'histoire de l'islam par l'émigration ou par Jam' al-Qur'an, le fait de réunir, de compiler le Qur'an, ou alors pour aider le Prophète à faire la hijra, rester dans sa maison pour qu'il puisse quitter Makkah et aller vers Madina, etc., etc. Ou alors être émissaire à Madina pour faire convertir des familles entières pour accueillir les musulmans. Ces tâches historiques, c'est-à-dire les points essentiels stratégiques, ont été accomplis exclusivement par des jeunes. Et ce n'est pas pour rien si le Prophète sallam a désigné Oussama radiallahu anhu pour être chef de l'armée qui devait aller rencontrer les Romains alors qu'il n'était âgé que de 17 voire 18 ans. De nos jours, 17 ans, 18 ans, ils sont avec les PS, ils sont avec les Wii, ils sont avec des trucs comme ça, ils savent se battre sur les trucs, j'oublie toujours les noms, alhamdoulilah que j'oublie, sur les trucs de simulation, mais prendre des décisions, ils ne savent pas faire. On a vu également que le prophète donnait des responsabilités. Quand on veut mettre en valeur une personne, il faut leur donner des responsabilités. Il ne faut pas non plus avoir une mentalité archaïque, ben je n'ai que pas rien. On fait confiance qu'aux valeurs sûres, aux anciens, machverek, les anciens, etc. Na wallah. Le prophète sallam confie l'étendard à Oussama. Il a 18 ans, alors que dans l'armée, il y a qui? Il y a Abu Bakr, il y a Umar ibn al-Khattab, c'est-à-dire les deux futurs califes et les plus grands des sahaba. Donc en même temps, le prophète sallam donnait de l'importance à ces jeunes, leur donnait des responsabilités pour qu'ils sentent que nous avons notre place. Nous sommes déjà des maillons essentiels. On n'est pas là pour faire la configuration ou autre chose. Vraiment, le Prophète sallam compte sur nous. Et ça, on avait vu pas mal de fois. Depuis l'enfance, le Prophète sallam fait en sorte que le jeune musulman, il trouve sa place de la société. Quand le Prophète sallam faisait salam à un adulte, s'il y avait un enfant, il faisait salam à l'enfant de la même façon qu'il faisait à l'adulte. Les ulama de l'ilm an-nafs, on appelle ça, on va dire entre guillemets les psychologues, les ulama de l'éducation tarbiya, disent que c'est pour donner l'importance à cet enfant, pour qu'il comprenne que je suis un individu. C'est pas je suis un petit, je compte pas. Il fait cela à mon papa, car pour moi il molle mon main. Ou alors il ne me regarde même pas. Ça veut dire que j'existe pas. Je n'ai aucune importance. Il n'a pas confiance en lui. Il ne s'affirmera pas très tôt. Alors que c'est dès le départ, quelqu'un d'important, il fait salam à un adulte, il fait salam à un enfant de la même façon, il comprend que j'existe. Il comprend que j'ai une personnalité, donc que je dois développer et je dois m'affirmer en regardant les exemples, en prenant des exemples avec les gens plus. Bref, et le prophète, avec ce jeune homme de 18 ans, avec Moussa ibn Umair qui était jeune, avec Ali ibn Abi Talib qui était jeune, à qui il a confié cette mission de prendre sa place dans sa maison, c'est des jeunes à qui le prophète a donné des travaux extraordinaires. Et le sahaba qui a réuni le Coran aussi, il a dit que c'était comme si on m'avait demandé de déplacer des djibal, des montagnes, ça aurait été plus facile que de réunir les fragments de Coran qui étaient dans toutes les tribus. Parce qu'il sait que si je fais une erreur, c'est une erreur monumentale pour la Ummah. Mais le prophète savait qu'Allah Ta'ala allait accorder son aide à ce jeune homme, il lui a fait confiance et il a réussi avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça c'était en résumé ce qu'on avait dit sur Shabu Nasha'a fi ta'atillah. La troisième catégorie de personnes, ça c'est beaucoup plus rassurant parce que ça c'est accessible. Parce que quand on parle d'un jeune qui a grandi dans l'adoration d'Allah, ben si on est revenu, bien venu un peu vers la religion, Allah nous a donné hidayah alors qu'on avait 40 ans, 50 ans, ben cette deuxième catégorie là, on ne pourra jamais l'atteindre. Parce que la jeunesse ne peut pas revenir. En arabe, il dit « Ya layta shabab, ya'ud » si seulement la jeunesse pouvait revenir. Il y a des gens qui souhaiteraient, si seulement j'avais 30 ans de moins, si la barbe blanche là était noire ou bien était pas trop là aussi. Mais il y a des gens qui auraient souhaité revenir vers la jeunesse dans des buts peut-être pas toujours très honorables. Il se dit que si j'étais plus jeune, samedi soir, mais tu restes pas ici. Un samedi soir, tu trouves à moi la villa, je sais pas, amusé, madja, d'accord. D'autres se disent que si, subhanallah, et là on va voir, c'était quoi la préoccupation principale du sahaba. Sahaba, quand il est jeune, il a un fikar. Sahaba, quand il grandit, il a un fikar. Sahaba, on va voir, quand il se marie, il a un fikar. Sahaba, quand il va mourir, il a un fikar. Il y a un seul fikar. Fikar de akhir. Comment je retourne auprès d'Allah et Allah est satisfait de moi. Nous, quand on est jeune, fikar, c'est diplôme. Quand on passe un stade supérieur, mon objectif, c'est quoi? Le boulot. Monter de grade, gagner 3000 euros, 4000 euros, avoir. Après 10 ans de travail, devenir propriétaire. Je ne peux plus payer le loyer. Depuis 10 ans, je paye le loyer. Devenir propriété après, avoir telle vache, telle vache. Et puis, peu à peu, mes enfants, mon mariage, mes enfants, faire grandir mes enfants. Bref, il a dit, nous rentrons dans un engrenage dunia contre dunia. Et à chaque fois, on a la conviction que c'est moi qui fais avancer les choses. Mais si à chaque fois, vous prenez ce fardeau, comme un chameau ou comme un bœuf, et que vous le mettez sur vos épaules, et vous pensez que c'est vous qui le faites avancer, ben vous allez le faire avancer vous-même. Si la personne ne s'en remet pas à Allah, Allah il le laisse faire son travail lui-même. Et que quand vous avez déplacé ce fardeau, fardeau numéro 1, vous allez prendre le fardeau numéro 2. Maman, il est petit, il faut faire grandir, il faut qu'il suive bien ses devoirs pour l'école. Le fardeau numéro 3, maman, il faut trouver un travail, après il faut faire marier, etc. Et en de la sorte, nous enchaînons des décades de notre vie dans des ficards de dunia jusqu'à ce que Malik al-Mawt arrive et on se dit que, quel travail, quel a'mal, qu'est-ce que tu as fait pour ton dîn, pour ton iman. Et on se rend compte que j'ai fait, ouais, bâtiment là c'est moi, là-bas camélia c'est moi, là-bas c'est moi, tel magasin, telle voiture, mon fils il a ça, ma fille il a ça, etc. On se rend compte qu'on a tourné en rond pour quelque chose qui ne valait pas plus qu'une aile de... Ça c'est haqiqat al-dunya, réalité du dunya, et ça c'est également là, entre guillemets, la force de shaitan. Shaitan, il sait que dans ce cœur-là, il y a un point faible. Il y a différents points faibles. Dunya, il y a les femmes, plus grand fitna, c'est les femmes. Ça c'est des shahawat, des passions, des pulsions qui sont dans la fitra. On appelle ça dans l'innéité. C'est inné à l'homme. Shaitan, il va travailler ça. Hubbud dunya, il sait exactement où il faut creuser pour travailler, pour que l'être humain... Le posséder du dunya n'est pas un péché. Travailler pour avoir le dunya n'est pas un péché. Zahaba, il y avait des Zahaba qui étaient immensément riches. Les Zahaba qui étaient commerçants, qui avaient, alhamdoulilah, tout ce qu'il fallait. Mais ce qui est extrêmement important, c'est faire la part des choses. Faire la part des choses entre ce que je fais pour le dunya, dans quel but je le fais, mais en aucun cas que cette place, cette chose prenne le dessus sur le akhirat, ou alors dans mon objectif, dans mon intention, dans mes préoccupations. Et donc, la troisième catégorie de personnes, on a dit que c'est rassurant parce que ça, c'est accessible à tout le monde. Il n'y a pas besoin d'être jeune, d'être moins jeune. Alors que Shahabun Nashafita Atila a dit que jeune, c'est jusqu'à... Certains disent que c'est jusqu'à 33 ans. D'autres disent que c'est jusqu'à 40 ans. On peut dire jusqu'à 33 ans parce que c'est l'âge des gens du paradis, d'accord? C'est l'âge où l'homme a le plus de facultés physiques, mentales, psychologiques, d'accord? Et après 33, on commence à décliner, on commence à faiblir un petit peu. Donc certains disent que Shahab, un jeune, c'est jusqu'à cet âge. D'autres disent non, c'est jusqu'à l'âge de la sagesse, la hikmah. La sagesse, c'est à 40 ans, d'accord? Même aujourd'hui, normalement. Et donc, quand on parle d'une personne qui a le cœur attaché à la masjid, ça, c'est un espoir, parce que c'est accessible à tout mu'min, tout musulman qui fréquente la masjid. Mais on va voir que fréquenter la masjid, il y a fréquenté, les termes en français sont limités. Quand on dit « qalbuhu mu'allaqun bil masajid », c'est une personne qui ne se contente pas de venir, de rentrer, de sortir 5 fois par jour. C'est quelqu'un qui a le cœur attaché à la masjid. Et on va voir quelques hadiths qui nous donnent bien des précisions. On va faire un petit peu, on va parler de quelques vertus en quelques instants, inshallah. On a vu le hadith la dernière fois que Ahabbul bilad ila Allah masajidwa. L'endroit le plus aimé par Allah de ce dunya, c'est les masajid. Et les endroits les plus détestés par Allah, c'est aswaquha. Et quand on dit marcher, c'est pas marcher forain. Il y a des gens qui disent marcher, c'est bazar. Marcher forain, voilà, comme les carrefours, c'est rayon fruits et légumes. Ça, Allah, il aime pas. Mais si c'est un rayon, autre chose, il n'y a pas de problème. Là, wallah. Marcher, c'est aswaq. Aswaq, parce qu'à l'époque, quand on dit souk, comme longtemps, quand on a un petit souk, vous achetez ce que vous voulez au souk, d'accord? C'est la grande surface, c'est le centre commercial, c'est le centre-ville, c'est les magasins, c'est, voilà. C'est les endroits les plus détestés par Allah. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'y trouver. S'il y a un haja, nécessité parce que je dois acheter, on y va, on achète. Si je dois vendre, c'est mon travail, j'y suis. Mais en aucun cas, le cœur ne doit être attaché à ces endroits. Pourquoi? Parce que c'est des endroits qu'Allah n'aime pas. Alors que les endroits qu'Allah aime le plus, on vient de dire que ce dunya, s'il valait plus qu'une aile de moustique, Allah n'aurait pas accordé. On connaît un sujet hadith, d'accord? Ça ne vaut pas plus qu'une aile de moustique. Mais dans ce dunya impur, sale, qu'Allah n'aime pas, il y a des endroits qui se distinguent, c'est les lieux de culte. Pourquoi? Parce que c'est les endroits où on se prosterne devant Allah. C'est les endroits où les gens pleurent par amour et par crainte d'Allah. C'est les endroits où les gens lèvent les mains et ils font dua, ils reconnaissent la grandeur et la suprématie d'Allah, ils reconnaissent leur faiblesse. Ils rentrent dans ce qu'on appelle at-tazallul wal khudu', la soumission totale à Allah. C'est ce qu'on appelle des musulmans, des gens soumis à Allah. C'est les endroits où l'être humain se soumet à Allah totalement. Où les fronts touchent le sol. On a dit ce front-là a été créé pour être sur le sol. Cet insan, cet être humain, a été créé pour adorer Allah. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْمَلُونَ. Pour travailler là, إِلَّا لِيَعْمَلُونَ non plus. لِيَعْبُدُونَ. Uniquement pour adorer Allah. Vous êtes d'accord ? إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, c'est-à-dire que ce front-là a été créé pour être en sejda. Cette langue, cette bouche-là a été créée pour parler d'Allah, inviter vers Allah. Ces membres-là nous ont été accordés pour l'utiliser dans le chemin du dîn, pour le khidmat du dîn. C'est pour ça que j'ai été créé. C'est le but. C'est pour ça que les masajids sont les endroits les plus aimés par Allah subhanahu wa ta'ala. Pour ça, on dit un hadith qui est ajib, hein, qui peut étonner certaines personnes. Hadith Hassan. Hassan al-Albani, Cheikh al-Bani, il a décrété Hassan, c'est-à-dire 90% authentique. Al-Masjidu baytu kulli mu'min. La mosquée, c'est la maison, la demeure de chaque croyant. C'est un hadith, hein? 4 mots, 5 mots. Mais, si quelqu'un médite dessus, et il essaie de s'identifier à ce hadith, soit il est conforté dans ce qu'il fait, soit il prend une claque monumentale. Il se rend compte qu'il y a une grande, grande, grande distance qui me sépare du vrai mu'min. Parce que le prophète dit Al-Masjidu Baytu Kulli Mu'min. Et quand on dit mu'min, c'est le vrai croyant. Le croyant de base. Le croyant de base, pour lui, la mosquée, la masjid, c'est sa maison. C'est sa vraie maison. C'est-à-dire que quand on est chez soi, par définition, on se sent bien. On est à l'endroit où on est à l'aise, alhamdoulilah, on est en confiance et on aime être. C'est-à-dire que le mu'min doit trouver cette quiétude, cette tranquillité du cœur quand il est dans la masjid. Et c'est pas comme si une personne, sans critiquer qui que ce soit, qui vient à la masjid, un dernier l'heure, comme nous aussi, qu'Allah nous pardonne, qui fait la salat, immédiatement après il sort. C'est comme si il y a des personnes qui, malheureusement, ne trouvent pas la rahma. Ils n'arrivent pas à détecter la rahma qui descend de la masjid. Alors que c'est l'endroit la plus aimé par Allah. C'est le terme que le prophète utilise, hein, c'est pas des métaphores, c'est pas des paraboles, c'est pas des images, hein, c'est la réalité. C'est les endroits les plus aimés par Allah dans ce dunya. Et quand Allah aime un endroit, Allah envoie sa bénédiction. Et la chose que le musulman a le plus besoin, c'est la rahmat d'Allah. Mais quand les cœurs sont formés, les cœurs ont les bons capteurs pour bénéficier, pour trouver la rahmat d'Allah. Donc si moi, musulman, je ne me sens pas bien à la masjid, c'est que je ne suis pas un bon mu'min. C'est que je dois travailler mes a'mal, je dois travailler mon iman, je dois travailler mes objectifs, mes priorités dans ma tête. Quand tout ça c'est réglé, là, je vais me sentir bien dans la masjid. Il y a des gens qui n'aiment pas trop rester parce que quand ils sont dans la masjid, ils ne gagnent pas d'argent. Quand il est dans le bazar, dans le marché, dans son commerce ou sur le terrain, il sait que là il travaille, l'argent il rentre. Parce que son himma, son fikar, c'est ça. Si notre fikar, c'est l'au-delà, je sais qu'à chaque seconde que je passe dans la masjid, c'est des hasanat. C'est des thawab. On voit le hadith Prophète dit que celui qui fait des pas, qui fait le wudu, qui va vers la masjid, il est en ibada, il s'assoit, il attend l'imam arriver, la salat commencer. Il est en ibada, en adoration, il est considéré comme étant dans la salat, jusqu'à ce que l'imam commence, jusqu'à ce que l'imam termine, etc. Tant qu'il ne dit pas n'importe quoi, tant qu'il ne fait pas d'erreur. Et les malaïkas, ils sont là, ils font dua, Allah, maghfirlahu, Allah, marhamu, Allah, pardonne cette personne, Allah, et pitié pour cette personne. C'est-à-dire que le mu'min, il sait que quand il met un pas dans la masjid, le compteur a démarré. Tant qu'il ne quitte pas la masjid, il est en, même s'il s'assoit là, et regarde ventilateur douané, il est en ibadah. Il est dans une maison, des maisons d'Allah, un des endroits les plus aimés par Allah Azza wa Jal, et c'est un endroit où son cœur doit trouver la tranquillité. Et le muhadithin explique, Ibn Hajar al-Asqalani, j'ai commenté donc Sahih Bukhari dans Fath al-Majid, que mu'allaqun fil masajid, quelqu'un qui a le cœur attaché aux mosquées. C'est-à-dire que c'est certainement quelqu'un qui fréquente la masjid. On appelle ça toulul mulazama. Quelqu'un qui fréquente régulièrement la masjid, mais il dit également toulul mulazamati biqalbihi wa in kana jasaduhu kharijan anhu. C'est-à-dire qu'une personne qui fréquente la masjid également avec son cœur. Bon, là, c'est plus de métaphore. Avec son cœur, même si son corps n'y est pas. Je répète, c'est quelqu'un qui a le cœur attaché à la masjid, même si son corps n'y est pas tout le temps. C'est-à-dire que quelqu'un que quand la personne n'est pas dans la masjid, son cœur reste attaché à la masjid. Son cœur reste attaché au fikar de la masjid. La présence d'Allah reste en permanence dans son cœur. La personne attend le moment où il retourne vers la masjid, parce que pour lui, c'est l'endroit le plus agréable, le plus apprécié, le plus aimé pour lui. Ça ne veut pas dire quelqu'un qui reste chez lui, hein, et regarde la télévision quand c'est le Isha, après il me dit mon cœur est dans la masjid. Non, c'est pas ça. C'est quelqu'un qui vient, qui fréquente, et quand il n'y est pas, parce que ce n'est pas l'heure de la salah, il est au travail ou il est avec la famille et tout, son cœur y est toujours. Il garde l'attitude du moumine qui vient à la masjid et qui aime la masjid. Par opposition, on saute un petit peu les étapes. Hadith ibn Mas'ud qui nous donne une compréhension vraiment précise. Il a dit que, regardez ça, il dit Sayakounu akhiruz zaman, dit en français, à la fin des temps, il y aura des gens qui vont s'asseoir dans la masjid, qui vont rester dans la masjid. Ils vont s'asseoir halaqan halaqa, par petits groupes. La seule chose qui les préoccupe, c'est le dunya. Il s'assoit dans la masjid pour parler du dunya. Il dit, par exemple, il dit, فَلَا تُجَالِسُوهُمْ فَإِنَّهُ لَيْسَ لِلَّهِ فِيهِمْ حَاجَةٌ. Ne vous asseyez pas avec eux. Attention, ne les fréquentez pas, parce qu'Allah n'a pas besoin de ces gens-là. Et ils sont dans la masjid, oui ou non? Quelqu'un est père dans la masjid depuis Zohar jusqu'à Asar. Il a ses camarades, il parle de PSG, il parle d'Ibrahimovic, il parle de qui vient, qui ça va, etc. Il parle de tout. Ils font le tour du dunya. D'accord? Ils ne sont pas dans la masjid pour l'adoration. Ils ne sont pas dans la masjid avec le fikr du mu'min. Ils y sont physiquement. Peut-être parce qu'on a un ventilateur, peut-être parce qu'il y a la clim, peut-être parce que dehors il fait chaud, peut-être parce qu'on a parole aussi. Il n'y a pas aucun autre endroit pour aller, ou un camarade est là. Pour ça. Mais est-ce que le cœur y est? Est-ce que quand il est dans la masjid, c'est le cœur d'un mu'min qui est dans le fikr, qui a le souci du din, qui est dans le dhikrullah? C'est ça. Donc, à travers ce hadith, hein, ça nous donne, on appelle ça mafhoum khalafa, une compréhension contraire de ce qui n'est pas être dans la masjid. Être physiquement, mais que le cœur n'y est pas, c'est-à-dire le cœur est avec le dunya, mais mon corps y est, ça c'est pas quelqu'un dont le cœur est attaché à la masjid. Quelqu'un qui, par exemple, qui ne travaille pas, et qui passe ses journées, ses après-midi dans la masjid à ne rien faire, ou alors retrouver ses amis, etc., etc., cette personne ne fait pas partie des gens qui a le cœur attaché à la masjid. Par contre, quelqu'un qui vient, c'est 5 fois, ben ça c'est la condition, c'est l'équivalent, ça c'est même pas négociable. Et on verra que même le tijara, même le travail, même le commerce, ne doit pas empêcher une personne de faire sa salat al-jama'a. Ça c'est l'idéal, ça c'est idéalement. Si on peut s'arranger, on peut trouver des solutions comme ça, nourun ala nour. Et on va voir donc que la personne qui vient, c'est 5 salats, et qui malgré le fait quand il n'est pas à la masjid, son cœur reste attaché à la masjid, ça c'est quelqu'un dont le cœur est attaché à la masjid. Là on a vu une première définition, on a défriché un petit peu. Maintenant on va voir dans l'application, comment les sahaba mettaient ce concept en application. Et c'est là que chacun va prendre une place. C'est là que chacun va se rendre compte que ma fréquentation hebdomadaire ou alors journalière, alhamdulillah, 3, 4 ou 5 fois par la masjid, c'est loin, 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 loin de la fréquentation du masjid Zahab. Même s'il venait 5 salats par jour, hein, il ne faisait pas plus que 5 salats. Mais quand il venait à la masjid et l'importance qu'il donnait et le fikar qu'ils avaient, c'était un autre monde, un autre niveau. C'est à des années-lumière de notre fréquentation de la masjid. Tout comme leur salat était à des années-lumière de notre salat. Tout comme le iman est à des années-lumière de notre iman. Alors, on va voir le premier cas de figure. Et il me semble qu'on avait vu également la dernière fois. Hein, on avait donné l'exemple comment le prophète, alayhi salat wa salam, hein, jusqu'aux derniers instants de sa vie, il voulait faire la salat en congrégation. Il était malade, il était mourant, alayhi salat wa salam, et à un moment donné, il se sentait un petit peu mieux. Et en commentaire, les muhaddithines disent, c'était quoi sentir un petit peu mieux? Il pouvait se faire porter par deux personnes pour venir à la masjid. C'est ça qu'on appelle, il se sentait un peu mieux. Dès quand il a su, il a compris qu'il pouvait se faire aider pour venir à la masjid, il a demandé au sahaba d'amener un récipient pour faire le wudu et amenez-moi à la masjid. Sahaba, ils exécutent, ils amènent le récipient, ils font le wudu, ils le portent et il s'évanouit, il tombe. Il le ramène dans sa maison. Il se réveille une deuxième fois, il dit que je vais aller à la masjid. Il refait son wudu, il y va, il s'évanouit, le sahaba le ramène une troisième fois jusqu'à ce que le prophète comprend réellement qu'il ne peut pas. Il avait dit à Abu Bakr d'officier la salat. Les muhadithines expliquent, regardez comment jusqu'aux derniers instants de sa vie, le prophète a donné de l'importance à la salat en jama'a, la prière accomplie en congrégation. Hadith dans lequel le prophète dit également que la personne rajulun kharaja ila masjidin masajidillah azza wa jal, va dire qu'il y a trois catégories de personnes qui sont sous la protection d'Allah. Et parmi ces trois catégories de personnes, c'est quelqu'un qui quitte son domicile pour aller à la masjid. Mais on verra également, quand on dit aller à la masjid, c'est quoi l'objectif? On va voir des hadiths qui viennent immédiatement après. Hadith de base, hadith qu'on a tous déjà entendu, déjà raconté et que tout le monde mémorise. Hadith dans lequel le prophète alayhi salat wa sallam, hadith de Imam Bukhari, Imam Muslim, le prophète a dit qu'une prière accomplie en congrégation, la salat accomplie en jama'at, a plus de valeur, a combien de fois plus de valeur? À peu près 25, dans d'autres versions, 27 fois plus de valeur qu'une salat accomplie chez soi. Ça, c'est le hadith de base. Ça, c'est la première phrase. La suite est intéressante. La suite, c'est comment mettre ça en pratique et quel doit être l'objectif. On a tous compris que quand on fait namaz en jamaat, il y a 25 ou 27 fois plus de hasanat, de thawab, que la salat que je fais chez moi. Mais après, le prophète m'explique quel est l'état d'esprit de ce mu'min qui va à la masjid. Wa dhalika. De la sorte que anna ahadakum, que lorsque l'un d'entre vous, lorsqu'il fait son wudu, déjà idéalement c'est de faire les ablutions chez soi, parce que quand on fait les ablutions chez soi, pour chaque pas il y a des hasanat, on verra les vertus. Quand on fait la masjid, c'est bien aussi, mais si on fait à la maison, il y a beaucoup plus de récompenses. Maintenant, si quelqu'un a des problèmes de wudu, si quelqu'un il peut pas faire chez lui, il fait à la masjid, Allah il sait le nier, d'accord. Lorsque l'un d'entre vous accomplit ses ablutions, fa ahsan al wudu, et qu'il les fait correctement. Donc la première chose, c'est faire le wudu chez soi, idéalement, et de les faire correctement. On appelle ça isbar al wudu, faire le wudu bien comme il le faut, en faisant en sorte que chaque membre, jusqu'à maintenant, il y a des adultes qui font le wudu de manière incorrecte. On voit des gens qui ne s'appliquent pas pour faire le wudu. Hein, il y a le juste milieu. Il y a des gens qui font le wudu en 10 minutes, gaspillent je ne sais pas combien de litres d'eau, une quantité d'eau suffisante pour prendre un bain. Là c'est relou, là c'est l'exagération. Puis il y a des gens qui font tellement vite, ils ne comprennent pas que ça c'est à la base de leur ibadah. Si mon wudu n'est pas fait correctement, ça ne compte pas. Hein, les gens ils ne font pas attention aux extrémités des membres, le coude, les chevilles, hein, le contour du visage. Il faut que tout le monde comprenne bien c'est quoi un visage. Ça c'est dans le fiqh, le fiqh al-ibada, ça c'est une chose de base. Hein, ça commence à la naissance des cheveux jusqu'au menton et en largeur de l'aube d'une oreille à l'autre. Je ne sais pas, peut-être sur le terme médical ou alors chez les médecins ou je ne sais pas qui, hein, qu'on parle du visage, hein, c'est le front, les yeux, le nez, la bouche, les joues. Mais islamiquement, shara'an, le visage ça commence depuis... Donc si quelqu'un il prend un peu d'eau, il fait comme ça, regardez ma main, il fait comme ça, on ne vous compte pas. Ça n'a pas mouillé tout ça, ce contour-là. Il faut faire très attention. Ce qu'on appelle isbar al-wudu, faire le wudu correctement, comme le Prophète sallam nous l'a enseigné. Donc, quand une personne, on fait la parenthèse, fait le wudu, fa ahsan al-wudu, et il le fait, il s'applique, il le fait correctement, thumma ata al-masjida la yuridu illa salah. Et que cette personne hein, se dirige, il prend la direction de la masjid, il y va uniquement pour la salah. C'est-à-dire, dès les premiers moments, le niya est fait. Le niya, l'intention, c'est quoi? Il y va pour la salah. C'est pas que j'y vais pour retrouver mes amis. C'est pas que j'y vais parce que j'ai une commission pour travailler avec tel monde. Ou alors que je dois regarder les affaires, je dois trouver telle personne, etc. Là, wallah. Il y va pour la salah. Et c'est quoi la salah? C'est un ensemble de gestes, de positions et de lectures qui traduisent la soumission totale à Allah. Les versets que je lis, les louanges que je fais sont des signes de soumission. Je suis soumis à Allah. Les positions, avec humilité, on ne bouge pas, concentration, c'est de la soumission à Allah. La génuflexion, le recours, est-ce qu'on peut le faire devant un être humain? Na'oud billah. C'est la soumission à Allah. Le sujoud, Allahu Akbar. La prosternation, c'est la soumission totale à Allah. C'est-à-dire que quand la personne quitte sa maison, il va à la masjid dans le but de se soumettre entièrement à Allah pour faire le ibadah, pour faire l'adoration d'Allah. C'est-à-dire dès le départ, il y a un fikar, il y a un objectif, objectif adoration d'Allah, et ça, ça reste permanent. Alors cette personne-là, la mierton, on continue en français, chaque pas que cette personne va faire, illa rafa'ahu Allah biha daraja. Allah Ta'ala augmente son daraja, augmente son degré, et wa hatta anhu biha khati'a, et Allah Ta'ala efface un péché. Jusqu'à ce que cette personne entre dans la masjid. C'est-à-dire le nombre de pas que je vais faire jusqu'à la masjid, c'est mon daraja qui augmente et mes péchés qui diminuent. Il y a des gens qui considèrent que celui qui va l'homme se rend 5 fois à la mosquée, il perd son temps. Il y a des gens, parfois ceux qui n'ont pas iman, ils ne comprennent pas pourquoi 5 fois par jour vous allez à la mosquée, ils croient que ces gens-là perdent leur temps. Il ferait mieux de s'occuper de telle chose, de leur travail, de leurs enfants, etc. Alors que s'ils savaient que pour chaque pas, Allah augmente mon daraja dans le Jannah, et que pour chaque pas, Allah efface un péché, ça c'est un commerce. Ça c'est un commerce qui ne connaît pas la crise. Parce que ça c'est la rahmat d'Allah qui est sans limite. Maintenant quand je viens à la masjid, mes chers frères, il faut garder ça à l'esprit. Parce que quand une personne accomplit une action avec qu'on appelle ihtisab, espoir de rétribution, il sait qu'est-ce qu'il a à gagner, il sait qu'est-ce qu'Allah va lui accorder, mais c'est là que la personne s'applique, c'est là que la personne se concentre, c'est là que la personne ne le céderait, ne le raterait pour rien au monde. Mais si on le fait machinalement, tout le temps, il s'en masjid, il vient, il rentre, ça, il ne comprend pas quelles sont les hasanats, les vertus. Ben, le jour où il y a France-Espagne, et si ça fait 20h, et que namaz, si c'est 20h40, il n'y va pas. Parce que dans sa tête, il n'a pas compris qu'est-ce qu'il a gagné. Pour lui, c'est que papa, il s'en va, dada, il s'en va, moulissa, bivayaman, donc, mais ça va. Pour lui, c'est une tradition, c'est une habitude. Malbar, il s'en va le temple. Un chrétien, il s'en va à l'église. Les juifs vont au synagogue. Ben, mais ça va à la mosquée. C'est moi, c'est ma culture. C'est mon identité. C'est presque ça, Wallah Musta'an. C'est-à-dire, il va à la masjid parce que, tout comme il mange biryani. Il va à la masjid comme il mange, qu'on appelle karikichri. Parce qu'il est gujarati, parce qu'il est indien et tout. Culture, nature, héritage culturel. La ilaha illallah, la wallah. Et quand quelqu'un ne comprend pas qu'est-ce qu'il a gagné avec les a'mal, ben, ça ne lui pose pas de problème de délaisser. Si quelqu'un dit, bon, viens manger à case, ou on est invité chez quelqu'un, il ne va pas faire le ficar que, bon, j'essaie de m'organiser avec la personne, mais écoute, allons manger après Isha, même qu'il fait namaz en jamaat, ou alors on mange dès que Maghrib finit, au moins je peux me libérer, venir à la masjid en salat al-jama'a. La personne dit, oui, ben, de toute façon, si on n'est pas à la maison, si on n'est pas chez nous, on n'est pas près de la masjid, peu importe, on va faire après. Ou alors il ne fait pas aussi. Parfois on oublie aussi. D'accord? Tandis que la personne qui médite sur chaque Bichar, chaque choc que le prophète m'a annoncé, chaque bouchon, chaque bonne nouvelle, chaque vertu, ben la personne il sait qu'est-ce qu'il a gagné. Et donc la personne va s'appliquer, il va le faire avec dévotion et il ne le raterait pour rien au monde. Et quand on fait une action avec dévotion, l'action prend de l'ampleur. L'action va prendre de l'ampleur. Donc il a ses hasanat, ses péchés effacés, ses degrés augmentés, jusqu'à ce qu'il rentre dans la masjid. Vous savez, le hadith lequel le prophète, il est dit qu'il y avait un sahaba qui habitait loin de la masjid, il voulait déménager. Le prophète n'était pas content. Pourquoi? Parce que la personne, si elle habite près de la masjid, elle fera moins de pas, et donc elle aura moins de récompenses. Le sahaba a compris. Et dans certaines sources, il dit également que le sahaba faisait des petits pas pour venir à la masjid. C'est-à-dire, ça c'est iman yaqin à fond, ça. Ça c'est conviction 100% que Allah m'accorde ça. Et quand je sais qu'Allah m'accorde ça, je m'applique, j'essaie d'avoir au maximum, j'essaie de puiser dans le trésor d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous, quand on vient à masjid, qu'est-ce qu'on fait? Peut-être pour moi en premier, hein. Bon, on n'habite pas loin. Depuis masjid jusqu'à la case, notification, les tweets, qui l'a écrit à moi, qui m'a envoyé un message, qui machin, jusqu'à ce qu'il rentre à masjid. S'il n'y a pas le fikar que, et la prise de conscience qu'Allah est en train de m'accorder telle chose, mon degré est en train d'augmenter, mes péchés sont en train d'être effacés. Alhamdulillah, je suis dans le chemin d'Allah, dans l'ibada. C'est-à-dire que si quelqu'un s'applique, il le fait concentration, vous allez voir, le iman augmente. Parce qu'on sait qu'est-ce qu'Allah est en train de nous donner. Ça, c'est l'étape. Jusqu'à ce que la personne entre dans la masjid. فَإِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدِ كَانَ فِي صَلَاتٍ Quand la personne entre dans la masjid, la personne est considérée en état de salat. Jusqu'à ce que la salat commence réellement. Par exemple, je suis arrivé 10 minutes avant, il y a encore des gens qui arrivent 10 minutes avant, alhamdoulilah, il y en a. 10 minutes avant, la personne est assise. Allah Ta'ala lui accorde la récompense de la salat, comme si elle est déjà en salat. Wa tusalli al-mala'ikatu 'alayhi, hein, et les malaïka, ils font des louanges pour cette personne. Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu, Allahumma tub 'alayhi. Trois doigts que les anges font pour la personne qui vient tôt, qui attend la salat. Et ces trois doigts là, c'est ce qu'on a le plus besoin. Quand les malaïka, La ya'asoun Allah ma amaram, des anges, des créatures qui ne désobéissent jamais à Allah. Quand il dit, oh Allah, pardonne à cette personne. Oh Allah, pardonne. Oh Allah, pardonne. Oh Allah, pardonne. Oh Allah, pardonne. Sans arrêt jusqu'à la salat commence. Allah ne va pas pardonner? Allahumma arhamhu, Allahumma arhamhu, Allahumma arhamhu. Malaïka qui demande à Allah, aie pitié pour votre créature, aie pitié pour cette cet être humain. Ayez pitié pour ce mu'min. Allah n'aura pas pitié. Et il dit Allahumma tub alayhi, Allahumma tub alayhi, Allahumma tub alayhi. Allah enlève ses péchés, enlève ses erreurs, enlève ses péchés. Regardez qu'est-ce qu'on a à gagner. C'est pas, on ne parle pas d'action difficile, hein. On parle de prise de conscience, de faire les actions de manière construite avec un objectif infikar et de s'appliquer. Venir à la salah, en congrégation, tout avec fikar, premier rang, takbir oula, et rester concentré jusqu'à ce que l'imam commence. Vous voyez les montagnes de hasanat que la personne va avoir en mettant uniquement cette action en application. Et si quelqu'un le fait régulièrement, allez, même si on ne peut pas être aussi concentré à chaque fois, mais quelqu'un qui toute sa vie fait cette salat en jama'at. C'est-à-dire qu'en une journée, il y a 5 fois 25. Quand on dit que la salat vaut 25 fois plus 1, 5 fois 25, multiplié par 10 jours, multiplié par 1 mois, par 1 an, multiplié par 50 années de salat. Quand la personne se trouve le jour des comptes devant son hisab, imaginez les montagnes de hasanat qu'elle va trouver. Parce qu'elle était assidue, régulier dans l'accomplissement de ce salat en congrégation, en jama'at. Ça, c'est pas pour rien si le prophète dit que salat est imaduddin, pilier de la religion. Ce qu'on a tellement à gagner, et là, on n'a pas parlé des positions de la salat, des lectures, on a parlé juste de le fait d'y aller. Vous voyez qu'est-ce qu'Allah Ta'ala est capable de nous accorder. Hada. Donc, ça, c'est la première étape. Pour qu'on puisse prétendre faire partie des gens qui ont le cœur attaché à la masjid, déjà, il faut fréquenter et régulièrement faire ses prières en congrégation, ses salats en jama'at. Et on a dit que ça, ce n'est pas négociable. Autre hadith que le prophète dit que man kharaja min baytihi mutatahhiran ila salatin maktouba fa ajruhu ka ajril hajj al muhrim. Le prophète dit que celui qui fait ses ablutions, qui va à la masjid pour la salat faraz, Allah Ta'ala lui accorde la récompense d'un hajj. Allah Ta'ala lui accorde la récompense d'un pèlerinage. Autre hadith, on ne commente pas, sinon ça va prendre trop de temps. Hadith d'Imam Ibn Hibban. Man sami'a an-nida. Là, c'est une mise en garde. Falam ya'tihi. Celui qui entend le adhan et qui ne vient pas. Fala salat alahu illa min udhr. Il n'y a pas de salat pour cette personne, sauf si elle a un udhr. Si la personne a une raison valable. En même temps, là on a tarhib, qu'est-ce qu'Allah nous accorde en venant à la masjid, mais il y a tarhib, mise en garde, quelles sont les conséquences du fait de ne pas venir à la salat en jama'at sans raison valable. On ne parle pas de quelqu'un qui ne fait pas la salat, là. Non, on parle de quelqu'un qui fait sa salat chez elle, dans sa maison, même si elle le fait avec concentration. Le problème c'est que la personne n'est pas venue faire la salat avec les musulmans dans la masjid. On va s'arrêter Inch'Allah, 37, encore 3 minutes Inch'Allah. La première, on a distingué plusieurs, il y a plusieurs signes pour voir si vraiment notre cœur est attaché à la masjid. Mais avant de parler du premier signe, encore un ou deux tarhib. Lorsque le prophète dit que man sala al-isha fi jama'a, la personne qui fait le isha en jama'at, faka'annama qama nisfa layla, c'est comme si que la personne a prié la moitié de la nuit. Là, toutes les personnes présentes dans ce majlis là, nous avons tous fait la salat isha en congrégation. Et Allah Ta'ala nous accorde déjà, juste pour ces faraz accomplis avec le imam, Allah nous accorde la moitié de la nuit de ibad. C'est comme si que durant la moitié de cette nuit, j'ai passé donc ce moment-là en qiyam, c'est-à-dire en qiyam ulayl, en tahajjud. Wa man salla subha fi jama'a fa ka'annama salla al-layla kulla. Et celui qui ensuite enchaîne, il va faire la salat al-fajr en jama'at, Allah lui accorde la nuit entière en ibadah. Hadith rapporté par Imam Muslim et Imam Ahmad. Hadith donc authentique, le mu'min qui fait une namaz isha en jama'at, c'est la moitié de la nuit qu'il lui a accordé. Et s'il enchaîne avec une namaz fajr, Allah lui accorde toute la nuit en ibadah. Maintenant, celui qui toute sa vie, il ne rate pas ni isha ni fajr. Regardez, qu'est-ce qu'il est en train de gagner? Et c'est qui l'homme intelligent? Est-ce que l'homme intelligent, c'est celui qui va veiller des nuits en regardant des matchs, Ligue des Champions ou autre, ou qui va dire que je me couche tôt parce que je dois travailler, lever tôt pour aller travailler, ou cet homme-là qui fait le plein de sommeil jusqu'à 7 heures et qui va travailler, là, même s'il va gagner 1 million dans la journée. Le mu'min, l'homme intelligent, c'est celui qui fait sa salat isha en jama'at et sa salat fajr en jama'at parce qu'il sait qu'Allah lui accorde une nuit en ibad. Et enfin, hadith concernant les personnes qui ont la chance là aussi de rester un peu après la salat al-fajr. Man salla al-fajr fi jama'a, quelqu'un qui fait le namaz fajr en congrégation jama'at. Ensuite, la personne, ثُمَّ قَعَدَ يَذْكُرُ اللَّهِ. Alors là, ça c'est quelque chose de perdu. Le dhikrullah après la salat, c'est perdu. De nos jours, après Fajr, regardez, je ne sais pas, je ne suis pas Fajr Montreuil, je suis là-haut dans un petit quartier, ou alors en ville. La masse finit, l'imam fait deux salams, les gens ils doivent tout de suite s'acheter de pain. La peur que quoi? C'est la guerre mondiale, il n'y a plus de pain. Ou un des rats, ils viennent, ils mangent tout le pain et mes enfants, ils vont, n'auront pas de pain pour aller à l'école. Même namaz est tôt. Salat, ici, 5h moins 10, je ne sais pas, 5h moins 5. Yannick, ne me dites pas que vos enfants, ils vont manger à 5h. Ils ne vont pas mourir de faim à 5h15. Les gens, dès que ça, beaucoup de gens, je ne dis pas tout le monde, mais malheureusement, il y a des gens, dès que le salam est fini, immédiatement, ils se lèvent, ils s'en vont. On oublie les adhkar. Il y a un dhikr que personne ne doit rater après salat fajr. C'est quoi ce dhikr? 10 fois, la ilaha illallah wahdahu la shariqa, pas un dhikr compliqué, pas dire amène le livre Hizbullah, Zam a 15 pages pour lire les prises de tête, non. La ilaha illallah wahdahu la shariqa la. Complété. Lahul mulk wa lahul hamd huwa ala kulli shay'in qadir. On appelle ça comment dans les madrasa? On appelle ça 4e calément pour les enfants. Yani, le Prophète explique que celui qui, après la salat de Fajr, il lit 10 fois, là, il a le 4e calément, il faut que je révise un petit coup les thawab, les hasanat, il y a en rapport avec 10. Allah Ta'ala lui accorde 10 récompenses, lui efface 10 péchés, et si je ne me trompe pas, je vérifie, c'est comme si que la personne avait libéré 10 esclaves. Les récompenses de 10, comme si qu'il a franchi 10 esclaves. Yani, uniquement en lisant 10 fois. Mais le Prophète dit que la personne qui le lit, avant de déplier ses jambes, il n'y a que pas que vous vous levez, vous allez en marchant vers votre voiture, vous le dites non. C'est-à-dire que dans l'endroit, dans l'espace, l'endroit où vous êtes, vous restez quelques instants, ne serait-ce fait ce dhikr. 10 fois, 4e calmant. Il y a des choses qu'on aimerait dire, mais après ça peut choquer certaines personnes. Hein, il y a des adhkars qui sont sunnah. On a remplacé ces adhkars sunnah par d'autres choses. Après la salat, notre prophète alayhi salat wa salam avait l'habitude de lire les doigts. On a déjà expliqué ça plusieurs fois, mais ça c'est un mudakara. Astaghfirullah, 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 alladhi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilayh. Allahumma anta as-salam wa minka as-salam, tabarakta wa ta'alayta ya dhal jalali wal ikram, bi rahmatika ya arhamar rahimin. 2. Allahumma a'inna ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. 3. La ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah. 4e calément. Ensuite, Allahumma la mani'a lima a'tayt wa la mu'ta lima mana'at wa la yanfa'u dhal jadd minka al jadd. 5. La hawla wa la quwwata illa billah lahul fadl wa lahu ni'mah wa lahu thana wal hasan. 6. La ilaha illa Allah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahu ad-din wa law kariha al kafirun. 7. Cette dua que le Prophète disait après chaque salat. Qui sait qu'il yani inchallah on le met en pratique. Excusez-moi, je passe ça de mais on fait autre chose. Tu quittes tes affaires. Que le Prophète n'a jamais fait, mes chers frères. Sahaba, Abu Bakr al-Siddiq, Omar ibn al-Khattab, Uthman ibn Affan, Ali ibn Abi Talib. C'est les porte-drapeaux dans le Jannat al-Firdaus. Ils n'ont jamais fait tout ce cinéma-là. Le Prophète nous a enseigné sunnah. Et nous, on va dire que tel moun a fait donc les biens. Et je ne dis pas qu'il ne faut pas faire, mais quand un Nabi vous enseigne quelque chose, et il y a tel grand personnage qui vous dit fait ça, vous choisissez quoi? Qui vous donne Jannah? Qui vous donne Jannah? C'est Allah. Et Allah vous donne Jannah en suivant son Habib. Il a enseigné à l'humanité un mode de vie. Il a enseigné à l'humanité un mode de vie, comment se comporter, mais également qu'est-ce qu'il faut lire après chaque salat. Et il le faisait régulièrement. Mais nous, on a substitué les adhkar masnoun par d'autres choses. Et on est coupable. On est coupable pour le fait, pas parce qu'on met, on fait un amal, non, parce qu'on délaisse la sunna pour d'autres actions. Et ça, c'est grave. On ne peut pas laisser sunnatul habib, alayhi salatu wassalam, pour des choses que des gens contemporains nous ont montré qu'ils le faisaient. Ils le faisaient, mais content pour lui. Alhamdulillah, Allah accepte. Vous pouvez en faire autant, bien, mais ne donnez pas priorité à un amal d'un être humain, de quelqu'un d'ordinaire, sur la sunnah de Al-Habib alayhi salatu wassalam. Après chaque salat également, le Prophète, qu'est-ce qu'il disait? Ayatul Kursi. Après chaque salat. Ensuite, qu'est-ce qu'il disait? Après chaque salat, Al-Ikhlas, Al-Falaq, Al-Nas. Qul wallahu ahad. Qul a'udhu falaq, qul a'udhu rabbi nas. D'accord? Sauf pour Fajr et Maghrib, il les lisait 3 fois. Et ensuite, Subhanallah, 33, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Dans certaines sources, après chaque salat, ça, il faut bien vérifier, dans certaines sources, il dit qu'après chaque salat également, il est masnoun de lire 100 fois le quatrième kalima. Il est spécifié le matin, mais dans certaines sources, il dit qu'après chaque salat. Yani, ça, c'est les adhkar masnouna. Et comment les sahaba, ils faisaient dhikr? Vous savez comment ils le faisaient? Mais ça, c'est une sunnat mahjoura, qui est abandonnée. Ils le faisaient à voix haute. Pas en congrégation, hein, pas toutes de monde crient en même temps, non. C'est-à-dire qu'ils le faisaient, qu'on entendait les gens faire le dhikr depuis l'extérieur. Et ça, je l'ai vu dans certains endroits encore. Ah, si je dis Oussama Lavi, elle dit, oui, ben Ali, ils sont tâtés là-bas même, d'accord. J'ai vu des gens après la salah, on entend après, salam alaykoum wa rahmatullah, salam alaykoum wa rahmatullah, hein, au lieu de le jouer, nous on fait doigt en djamad et à l'imam. D'accord. Pour ça, ne le faisait pas, on sait ça. Les sahabas ne l'ont jamais fait. Abu Hanifa n'a jamais fait, on le sait ça, d'accord. Mais la sunna, c'est que chacun fait ses adhkar, les adhkar qu'on a dit là, à voix haute. Quand on dit à voix haute, c'est pas en criant, mais d'une voix presque audible. Et qu'on entend, les sahaba, lorsqu'ils le faisaient, on entendait comme un murmurement de la masjid. Chacun était occupé dans ses adhkar, et personne n'y lève pas. Chaque mu'min, il sait qu'est-ce qu'il a déjà gagné en venant à la masjid avec wuzu pour faire salat en jama'at. Il sait qu'est-ce qu'il a gagné en faisant la salat. Et il sait qu'est-ce qu'il a à gagner maintenant en faisant les adhkar masnoun, comme le prophète l'a enseigné après la salat. Tout ça, cet ensemble-là, c'est la salat. Cet ensemble-là, c'est faire une salat correcte, comme les sahaba le faisaient, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'avait enseigné. Donc, après la salat al-fajr, il restait assis dans le dhikrullah jusqu'au lever du soleil. Et ensuite, il faisait deux rak'at. Et le prophète dit que celui qui fait ça, Allah Ta'ala lui accorde la récompense d'un hajj et d'un umrah. Et enfin, dernier hadith, on va terminer avec ça. Ça, c'est le summum. Allah nous accorde un jour peut-être l'honneur, la possibilité de le mettre en pratique. Man salla lillahi 40 yawman fi jama'a. Celui qui fait ses 5 salat en jama'at pendant 40 jours. Qu'est-ce qu'Allah accorde? Hadith de base, ça connu. Pour ça, me dit, et attention, yudriku takbirat al-oula, avec imam, qui dit Allah Akbar, yani dès le départ, hein, c'est-à-dire que la personne commence la salat avec le imam. Allah lui accorde 2 garanties. Connais ça. Bara'atan. Allah lui accorde 2 protections. Bara'atum minan nar wa bara'atum minan nifat. Qu'est-ce de plus? Qu'est-ce de plus? Si quelqu'un il te dit que soit on te donne bara'atum minan nar ou bara'atum minan nifat, soit ça, ou alors je te donne un American Express illimité. C'est-à-dire que il y a de l'argent illimité dessus. Allez Mercedes, allez claquer, prends un mail, allez là-bas, allez acheter un case, allez chape à vous, allez ça. Ce qu'on veut, il y a crédit illimité. Ou alors Allah vous donne bara'atum minan nar, bara'atum minan nifaq. C'est pas une parole honnête, c'est Allah. Qui c'est qui fait rentrer dans le Jahannam? C'est Allah. Et Allah, le créateur du Jahannam, il dit que ce mu'min-là, il est bari, innocent, c'est-à-dire il ne rentre pas dans le Jahannam, il ne rentre pas dans l'enfer. Et ce cœur-là, il restera sincère. On a vu, il fait peur ça. Et Omar ibn Khattab, il demandait, est-ce que je fais partie des munafiques? Est-ce que je fais partie des munafiques? Il avait peur qu'il est mu'min, mais dans, intérieurement, il y ait une part de nifaq. Il avait peur. C'est-à-dire, mu'min doit se faire du souci pour sa foi. Et donc, celui qui fait cette action-là, Allah lui accorde la garantie que tu rentres pas dans l'enfer, et la garantie que ton cœur restera sincère. Jamais il n'y aura un pourcentage de nifaq, d'hypocrisie dans ce cœur. Et quelle action il faut accomplir? Après ça, me dit celui qui fait ses, qui fait 40 jours, ses 5 salats en congrégation avec takbir oula. Il n'a pas demandé, on fait quelque chose d'extraordinaire. Il n'a pas dit que la personne qui va vendre tous ses biens et qui va faire dans le chemin d'Allah et qui va faire le carême durant 10 ans et 10 ans, carême nafil et 10 ans, tahajjud toute la nuit, etc. Non! 40 jours de salat. Vous voyez l'importance de ces salat en jama'a. Ça, c'est la base. Ça, c'est ce qui fait la force du mu'min. Donc là, c'est une introduction assez précise concernant l'importance de la salat. Ça, c'est, il n'y a pas besoin de repréciser. L'importance de la masjid et l'importance de la salat en jama'a et l'importance du fait de s'appliquer quand on vient à la masjid, de comprendre que l'objectif, c'est l'adoration d'Allah, subhanahu wa ta'ala, en comprenant, en réalisant qu'est-ce qu'Allah m'accorde dans mon trajet, dans la salat et après la salat. De la sorte, la personne sera concentrée, le fera avec dévotion. Et la prochaine fois, on va voir quelques signes. Premier signe, on verra que faire la salat en jama'a, quelles que soient les circonstances. On voit l'histoire de ce jeune sahaba, Saïd, je ne sais pas si c'est le son nom. Ce sahaba, il venait de se marier. Et le lendemain, il se trouve face à tout le fait. Les gens disent que tu t'es marié hier soir et tu es à la masjid là. Il dit que si une femme m'empêche de faire namaz fajr en jama'a, c'est une mauvaise femme que j'ai épousée. Et allez, quelles que soient les circonstances, ça lève bonheur, maman. Il y a beaucoup de nikah en ce moment, tous les jeudis soir, nikah. Il y a pu faire les programmes ici. Tous les jeudis soir, nikah, d'accord? Mais, on a fait son vendre, ces gens-là, ils sont dans différents quartiers. Mais il faut en avoir la race, comme il dit. Quelqu'un, il fait nikah jeudi soir, namaz fajr, vendredi, il est là. Alhamdulillah. Sahaba, ils le faisaient. Parce que pour eux, mariage, madame, oui. Mais si madame m'empêche de faire namaz fajr en jamaat, c'est qu'elle m'éloigne de l'obéissance d'Allah. C'est que j'ai épousé une mauvaise femme. Normalement, nos épouses à la maison, c'est elles qui doivent nous mettre dehors, nous mettre à la porte quand arrive la salat. Ça, c'est le vrai tartib. On voit également autre signe, faire la salat en jama'a même quand on est malade. Les sahaba, comment ils le faisaient? D'accord? Et quelle était la limite? Tant qu'ils pouvaient se faire épauler, au sens propre, se faire porter sur les épaules, s'appuyer sur quelqu'un, ils venaient. Mais si vraiment il était alité, là la personne ne venait pas. Ça, c'était vraiment le himma, l'importance que le sahaba donnait à la santé jama'a, même en état, même quand ils avaient des problèmes de santé. Même en période de danger, on va voir l'histoire de d'autres personnes, des périodes de troubles avec des imams qui voulaient tuer des ulama, des grands. C'était avec Saïd bin Moussaïb, justement. Même que sa tête était mise à prix, il venait en salat. Il dit que si on me tue, on me tue. Mais ça, quand j'entends hayy ala al-salah, hayy ala al-falah, je peux pas ne pas répondre. Je peux pas rester à ma maison. On va voir d'autres personnes qui étaient dans les derniers moments de leur vie dans la masjid. On les propose, on vous amène à la maison, sur votre lit, avec la famille autour. Vous allez mourir. Il dit non, il est mort dans masjid. Personne dit que je meurs sur le Moussallah dans la masjid parce que là je suis dans le chemin là, je suis dans la. Il dans des moments il dit le hadith que je suis dans la salah parce que je suis venu dans la masjid, je reste en état de pureté et je veux mourir dans cet état. On va voir comment les sahaba et par la suite les tabi'in, à notre degré les tabi'in, leur cœur était attaché à la masjid. Ça veut dire quoi? Avoir le cœur attaché à la masjid. On ne pourra pas faire autant, mais ça nous donne une indication sur le chemin qui reste à faire. Pour atteindre ce degré, pour Inch'Allah espérer être sous l'ombre du trône d'Allah Azza wa Jalla. Vous savez, le trône d'Allah il est immense. Je pense que tous les sahaba, ils y seront. Les tabi'in, les tabi'in. Mais si nous venons de cette place là, il n'y a pas à jouer des coudes, un peu de la place, il ne fait pas ça, t'es ikram. Non, il faut mériter ça. Ça, il faut le mériter. Et ça, c'est pas diplôme, ça, c'est pas le nom, c'est pas grand famille, c'est pas même pas la longueur là-bas, même pas ça. Non. C'est a'mal, iman et a'mal, avoir les qualités de la foi. Parce que toutes les personnes, tous les mots, mais ils seront le, inshallah, ils auront un certain degré de tranquillité. Mais il faut que ce iman-là ait des qualités, il y a des sifat. Si votre iman a une de ces sept, c'est comme si c'est une pub, une annonce. Si dans votre iman vous avez une de ces sept qualités, vous pouvez aspirer à une place sous l'ombre du trône d'Allah. Ça c'est une des, iman c'est un tout, mais il faut que le iman ait des sifat et des qualités qui nous permettent donc d'espérer d'avoir ce rang. Et qu'Allah nous les accorde, Inch'Allah, les sept idéalement, ou alors ne serait-ce un parmi ces sept pour que, comme là on est réunis sous le toit de Masjid Montreuil, Allah nous accorde la possibilité un jour d'être sous l'ombre, Inch'Allah Azza wa Jal, de son trône le jour de Mahshar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan.